parce que je suis resté moins coincé sur Chambordon que je l'étais, mais j'essayais de, comment dire, de suivre davantage ce qui a été mon propre périple en la matière. Donc ça s'appellerait plutôt la délinquance juvénile, essai au pluriel, de construction au pluriel, d'objet au pluriel. Voilà. Bon, je vais commencer par des propos assez généraux. Je me suis demandé, bon, pourquoi c'était une chose qui allait tout à fait de soi pour moi que de faire ce genre d'opération. Voilà. Alors c'est peut-être parce que j'ai abordé, moi, la sociologie sur fond d'une formation initiale en sciences dures, mais en vous écoutant, je pense que c'est sans doute davantage parce que l'air du temps sociologique, quand j'ai débarqué en sociologie, était, pourrait-on dire, pour le dire en un mot, était assez théoriciste. Voilà, on pourrait dire ça. Donc, voilà, ça collait bien, quoi. Ça marchait bien pour moi, quoi. Voilà, ça me plaisait bien. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, venir à la sociologie, que je concevais comme une discipline scientifique, ça impliquait, ça me semblait aller de soi, une sorte de circularité entre la théorie et l'empirie. Voilà, pour dire les choses simplement. De sorte que la construction d'objets signifiait pour moi, au fond, la nécessité de trouver, de mettre au jour le problème ou les problèmes théoriques sous-jacents à la question empirique que j'abordais. Voilà, je vais faire deux remarques à ce propos. La première, c'est que ce genre de démarche récusait aussi une autre type de conception possible, une conception, on peut dire, empiriste de la sociologie qui prétend de façon tout à fait illusoire, à mon sens, s'en tenir à la description, on dit ethnographique aujourd'hui, ça fait plus chic que journalisme ou reportage. Bon, donc rupture avec une conception empiriste de la sociologie sur un fond supposé d'innocence théorique qui me semble assez naïf. D'autre part, cette démarche, construction d'objets, ça impliquait aussi, là c'est plus compliqué, l'identification, je le disais à l'instant, des enjeux théoriques d'un objet empirique. Et donc supposait au moins l'existence d'une théorie, d'un cadre théorique de référence, éprouvé, à compléter, à rectifier, etc., autant qu'on voudra, mais enfin, il fallait bien en avoir un quand même. Voilà. Et ceci dit, il me semble aussi, il me semblait aussi, je crois, sans illusion rétrospective, qu'il n'y a aucune raison pour que ces enjeux théoriques soient toujours immédiatement visibles. Après tout, ça ne saute pas forcément aux yeux. Hein, voir quels sont les enjeux théoriques liés à telle ou telle pratique, tel ou tel groupe social, tel ou tel domaine de pratique, etc., tel ou tel problème social, ce n'est pas toujours évident. Au fond, il me semblait aussi, et je crois que ça colle avec l'expérience, la mienne, mais aussi avec ce que j'ai entendu des autres ici, que la construction d'objets, ce n'est pas une sorte de rupture inaugurale, mais une sorte d'identification progressive, parfois réitérée, recomposée, reconstruite, dans la mesure où, justement, réitérée, dans la mesure aussi où ces enjeux théoriques peuvent être multiples, parce qu'il n'y a pas forcément un seul enjeu théorique dans la même question. Bon, plus concrètement, donc, je voudrais essayer d'indiquer, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, l'expérience que j'ai acquise de ce genre de démarche, construction d'objets, dans le cas qui m'a occupé pas mal d'années de la délinquance juvénile. Voilà, j'ai été amené à enquêter sur ce problème, appelons-le comme ça, dans la deuxième moitié des années 70, pour des raisons dont je pense qu'elles devaient plus à l'ère du temps sociologico-politique, l'intérêt, pourrait-on dire à l'époque, pour la marginalité, c'est un mot qu'on n'emploie plus, mais à l'époque, tout le monde parlait de ça, l'intérêt pour la marginalité, donc plus pour des enjeux, voilà, de l'ère du temps, qu'à des enjeux théoriques. C'est-à-dire qu'au fond, je me suis mis à étudier très typiquement ce que Louis rappelait à propos des métiers de sociologue, les loisirs des adolescents d'un grand ensemble de la banlieue Est de Paris. C'est tout à fait ce que j'ai fait. Le véritable crime sociologique. Voilà. Bon. Voilà, je l'ai donc fait entre 75 et 80, puis j'ai recommencé voilà, entre 2000 et 2005, mais de façon là pour le coup passablement différente, parce qu'entre-temps j'avais travaillé une première fois, donc au fond il s'agissait beaucoup la deuxième fois de mettre à l'épreuve les constructions que j'avais cru pouvoir opérer dans la première épreuve et de voir si ça marchait encore, ouais, si ça était encore adéquat ou s'il fallait changer tout. Voilà, alors revenons à la première fois. En fait, ce genre d'objet, la délinquance juvénile, confronte le sociologue, mais je crois que c'est assez général, d'une part à des représentations de sens commun. Bon, c'est ce que dit Chambourdon, par exemple, hein, dont on peut supposer, dit-il, qu'elles doivent beaucoup à une représentation médiatique pathétique qui repose très souvent sur une métonymie, la partie pour le tout, le fait divers spectaculaire pour la masse des petits méfaits ordinaires, etc. Bien. D'autre part, donc, premier sens commun, d'autre part, confrontation à une préconstruction politique évidemment identifiables. C'est facile dans ce cas-là. Dans le droit, dans des institutions, à commencer par des ministères, les ministères régaliens, la justice, la police, etc., un ensemble de métiers, les policiers, les magistrats, les avocats, les éducateurs, etc., à une situation aussi de procès, voilà, caractéristique de son objet. Enfin, étudier ce type d'objet, c'est être confronté à des préconstructions savantes. Il y a déjà, quand on débarque, une des sociologies de la délinquance juvénile, qui est essentiellement, pour ce qui nous concernait, en tout cas le début des années 70, essentiellement nord-américaine, avec deux tendances. D'un côté, celle qui étudie plutôt les politiques, ce dont on parlait à l'instant, la fonction publique, qu'on appelait à l'époque la sociologie de la réaction sociale, j'y reviendrai dans un instant, et puis un autre versant de ces sociologies de la délinquance qui étudie plutôt les populations concernées par les politiques, celle qu'on appelait à cette époque-là la sociologie du passage à l'acte. Voilà, dans un cas, donc on étudie ceux qui les prennent en charge, ces délinquants, l'autre, c'est on étudie les délinquants. Bien. En France, c'était une étiologie de type psychologisante, qui constituait le sens commun criminologie français de l'époque. Bon, alors voilà, par rapport à ça, par rapport à cette situation, je voudrais indiquer comment l'objectivation de ces préconstructions sous leurs diverses formes permet d'identifier différents objets sociologiques qui sont associés à la délinquance juvénile. Je l'aborderai donc d'abord comme construction sociale, dans la perspective interactionniste devenue classique, avant d'interpeller cette construction dans une perspective qu'on peut dire réaliste, je crois, en lui demandant mais la construction sociale de quoi ? C'est une question plus tard, que je me suis posée plus tard. Je m'interrogerai ensuite sur le procès politique instruit contre la sociologie de la délinquance et, ce faisant, sur les rapports entre objets sociologiques et objets politiques de façon plus générale. Enfin, j'essaierai d'indiquer comment le territoire de la délinquance juvénile conduit à étudier aussi les rapports entre objets de droit, objet psychologique et objet sociologique. Donc, vous avez trois familles de problèmes que j'aurais essayé d'évoquer. Donc, d'abord, la délinquance juvénile, une construction sociale, c'est le plus banal. Bon, on peut dire que la délinquance juvénile est une construction sociale et plus précisément une construction étatique. La délinquance juvénile, c'est un objet préconstruit, un objet plus précisément étatiquement et juridiquement construit. Et tout un versant de la sociologie de la délinquance tire les conséquences de ce constat d'évidence. Ainsi, la définition préalable que donne Durkheim de la délinquance, une construction théorique provisoire à fin de rupture, dit-il, est tout entière juridique. C'est une formule connue, Durkheim disait « nous appelons crime tout acte puni ». Bon, vous voyez, c'est la punition qui définit le crime. Un acte est criminel, donc quand il offense, dit-il aussi, des états forts et définis de la conscience collective. Donc les délinquances, les pratiques de délinquance sont des pratiques sociales sanctionnées par la loi. Bon, quant à la déviance, c'est un peu pareil, c'est des conduites sociales qui s'écartent de la norme, sanctionnées plutôt par un stigmate que par la loi. Une vision donc constructiviste de la déviance et de la délinquance qui peut se présenter comme le résultat provisoire, tout jamais acquis, de la concurrence entre des entrepreneurs de morale qui se battent pour définir ce que c'est que la norme, ce que c'est que la loi. Bien, c'est celle que Philippe Robert, qui existait déjà à l'époque quand je débarquais sur cette question-là, adoptait lui aussi, disait « le crime est un comportement saisi par le droit qui menace son auteur d'une peine, autrement dit un comportement incriminé ». Bien, à la même époque, on traduit aussi Howard Baker, Outsiders, qui arrive sur le marché français avec le succès que l'on sait, qui, dans une perspective interactionniste, celle qui reprend à son compte Philippe Robert, qui en a été un des principaux promoteurs en France à cette époque, explique pour qui expliquer le crime, c'est rendre compte des processus de production normative et des processus d'incrimination. Bon. Donc, étudier la délinquance, c'est étudier le fonctionnement des institutions chargées de prononcer et d'infliger des sanctions, de mener ce qu'ils appellent des opérations d'étiquetage. Il faut donc étudier plus concrètement, empiriquement, la police, les tribunaux, etc. Bien, plutôt que la personnalité ou la situation sociale du délinquant, donc ce n'est pas intéressant de ce point de vue-là. Voilà. C'est aussi, d'ailleurs, je m'en suis rendu compte en relisant Chambordon, c'est aussi en fait la perspective qu'adopte Chambordon dans cet article célèbre de la RFS. Il dit « il faut renoncer à chercher dans des qualités substantielles des jeunes délinquants ou même de leur milieu familial l'explication d'un phénomène qui tient à la relation entre les jeunes délinquants et le groupe social qui les remarque et les sanctionne. Donc Chambordon focalise, lui aussi comme tout le monde à peu près à cette époque-là, son attention sur les mécanismes de marquage auxquels les jeunes des classes populaires sont plus exposés que les autres, sur les institutions de détection, de répression, de redressement, etc., le rôle qu'elles jouent dans la constitution de la délinquance. Voilà, c'est ainsi que la sociologie, dont on dit sans cesse, c'est pas faux, qu'elle était plus ou moins psychologisante du passage à l'acte, avec son paradigme multifactoriel, se voit remisée au musée des antiquités sociologiques, plus personne n'en parle. Voilà, et en même temps, on promeut la sociologie de la réaction sociale. Les pratiques délinquantes sont des pratiques étiquetées comme telles, point barre, il n'y a rien de plus à en dire. Voilà. Donc on peut se demander, c'est ce que je vais faire en tout cas, comment rendre compte de la fortune de ce déplacement, de cette modalité nouvelle de construction d'objets. Alors je crois qu'on peut voir différentes raisons qui expliquent le succès assez foudroyant qu'a connu cette perspective, cette modalité de construction d'objets délinquants juvéniles. D'une part, des raisons qui sont propres au champ de la sociologie. Je pense qu'un des avantages de cette perspective importée des États-Unis à cette époque-là était le déplacement vers le, enfin, ce déplacement, enfin, induisait un déplacement vers le fonctionnement du système pénal judiciaire et vers les représentations du crime, qui impliquait en quelque sorte un ennoblissement du sujet étudié. Vous voyez, par rapport à la hiérarchie scientifique des objets, qui est plus ou moins décalquée sur la hiérarchie sociale des objets, c'était quand même plus chic d'étudier les magistrats que d'étudier des dealers de quartier. Bon, c'est un premier aspect. C'était d'autant plus, donc il y a un progrès dans la légitimité en quelque sorte de la sous-discipline. C'est d'autant plus vrai que quelques années plus tard paraît surveiller et punir. Alors, bon, voilà, Foucault étudie la prison, les dispositifs disciplinaires, etc. Donc, oui, bon, voilà, c'est un grand best-seller, un grand philosophe, le Collège de France, machin, etc. Bon, vous voyez, cette discipline qui était très très bas, hop là, vous voyez, se trouve pour le coup très vite très haut. Bien. Ça permettait aussi, c'est un autre avantage à mon avis non négligeable, qui relèverait d'une sociologie qui n'est pas faite, hein, des sociologues de la délinquance, de contourner la distance quasi infranchissable entre les délinquants et les chercheurs. C'est aussi ça, quoi. Vous savez, quand vous étudiez les institutions, bon, c'est quand même plus facile que d'aller étudier les malfrats du coin, quoi. Bon, c'est, voilà, pour des raisons assez simples. Bon, voilà. On pourrait poursuivre sur ça, mais je ne veux pas m'étendre trop loin. Il y a deuxième raison, il me semble qu'il y a tout un ensemble aussi de raisons éthico-politiques liées à l'humeur contestataire de l'époque qui permettent également, je crois, de comprendre ce déplacement. C'est ce que dit d'ailleurs Howard Baker. Il dit les théories de l'étiquetage ont l'avantage de s'en prendre à la moralité conventionnelle et à sa définition de la déviance. On peut s'en ouvrir, c'est une façon de l'objectiver, c'est aussi la critiquer dans une certaine mesure. Robert Castel ne dit pas autre chose quand il explique lui aussi la fortune du paradigme du contrôle social, comme on disait à l'époque, par un contexte spontanéo-libertaire de l'époque. Bon. Voilà. De façon plus générale, je pense à la préface que Jean-Jacques Rosa a fait à Paul Bogossian, la peur du savoir. C'est au fond, bon, voilà, je pense que ce type d'approche jouit tous les, comment dire, les privilèges, en quelque sorte de dénaturalisation, de relativisation, de d'historicisation de pratiques qu'on a l'habitude de considérer comme des pratiques substantielles, etc. Donc, d'une certaine façon, de les relativiser. Voilà. Néanmoins, je crois que cette perspective n'exclut pas la question de Ian Hacking, que je parlais tout à l'heure, à propos d'ailleurs de toutes les constructions, de la construction sociale, de quoi ? Est-ce qu'on a tout dit des pratiques délinquantes ou déviantes lorsqu'on les a définies comme des pratiques qui sont construites comme telles, hein, c'est-à-dire des pratiques incriminées, stigmatisées, ou comme illégalisme, ce que fait Foucault, par exemple. Est-ce que c'est le tout de ce qu'il y a, est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il y a à en dire ? La définition d'une pratique déviante se réduit-elle en quelque sorte à son caractère déviant ? Dire d'une pratique qu'elle est classée comme délinquante ou déviante suppose qu'elle préexiste au classement. Voilà, elle n'est pas produite par ce classement. Le classement contribue à la spécifier, etc. Bien. Chambordon, d'ailleurs, est sensible au problème, mais dans une des notes de l'article, il récuse la réduction par paradoxe, je cite, par paradoxe nominaliste de la délinquance au jugement de délinquance porté par l'institution. Mais, bon, voilà, s'il le note, il le remarque, il en tire. Pas vraiment de conséquences. Pas du tout, d'ailleurs. Enfin bon, je reviens dans un tout petit instant. Bon, d'où, si on prend au sérieux toutes ces réflexions que je viens de faire, la nécessité de préciser ce quoi qui est censé être construit. Est-ce que c'est n'importe quoi? Parce que n'importe quelle pratique peut être considérée comme déviante, délinquante, etc. Il faut d'abord rechercher, si on prend ça au sérieux, dans la trajectoire biographique, familiale, scolaire, professionnelle, sociale, dans le groupe de pères, etc., dans les contextes où elles s'inscrivent, le principe de pratique spécifique labellisée délinquante. Voilà. Des pratiques incriminées, d'ailleurs, dont il me semble qu'elles ne prennent sens que dans le cadre d'un style de vie déviant. Voilà. C'est d'ailleurs ce type, je reviens à Chambordon, c'est l'esquisse de ce type de démarche qui le conduit, par exemple, à distinguer ce qu'on a souvent retenu de son article, même si ça occupe qu'une place tout à fait mineure, la distinction qu'il opère, c'est comme la jeunesse n'est qu'un mot, hein, entre la délinquance anomique et la délinquance endémique. La délinquance endémique, c'est celle des jeunes des classes populaires, la délinquance anomique, celle des jeunes des classes moyennes ou parfois supérieures. C'est très rare. Voilà. Mais c'est aussi, d'ailleurs, on peut retrouver le même type d'interrogation, mais jamais explicité comme tel, chez Durkheim aussi. Durkheim qui définit le crime par la peine, Durkheim définit aussi, il n'exclut pas, par ailleurs, voilà, dans d'autres textes, une définition réaliste, pourrait-on dire, du crime. Il écrit, par exemple, « Pour la conscience commune, le crime consiste essentiellement, ou presque uniquement, à tuer, à blesser, à voler. » Tuer, blesser, voler, ben ça c'est le livre 2 du code pénal et le livre 3 du code pénal, quoi. Voilà, littéralement. Hein, c'est, voilà, bon. Alors, d'ailleurs, on peut, en tout cas moi, je me demande, dans cette perspective, si un groupe humain, quel qu'il soit, pourrait subsister sans l'interdit du crime et du vol, enfin, il semble. Alors, voilà. Donc, au fond, voilà, ma conclusion, c'est que l'objet de la sociologie de la délinquance ne saurait se réduire, je crois, à la réaction sociale. Il inclut certes les représentations et les pratiques des différentes catégories d'entrepreneurs de morale, le fonctionnement des systèmes policiers, judiciaires, carcérales, les effets de l'étiquetage sur les carrières des viandes délinquantes, etc. Mais il inclut aussi la sociologie des violences physiques contre les personnes, la sociologie des atteintes à la propriété, même dans certains cas des atteintes à l'État, mais ça c'est plus rare. Bref. On peut dire, résumer ma première conclusion en disant que les délinquants participent eux aussi activement à la construction sociale du problème de la délinquance. Quoi. Ils jouent un rôle dans cette construction du problème de la délinquance. Voilà la première chose que je voulais vous dire. La deuxième, c'est le fait que la délinquance juvénile, c'est aussi l'occasion de te confronter à... comment dire, à la confrontation, justement, entre un objet sociologique et un objet politique. Dans le cadre de la délinquance... La sociologie n'est pas seulement confrontée à des prénotions communes ou savantes, mais elle se trouve prise aussi, c'est ce que je disais au tout début, dans une situation de procès, de procès au sens propre, en l'occurrence, ou juridique, de fait. Ainsi peut-on comprendre, je crois, que les sociologues qui s'en mêlent soient régulièrement interpellés par les politiques, de Reagan à Manuel Valls, qui les accusent d'excuser sociologiquement les délinquants. Et il me semble que la situation de procès dans laquelle se trouve pris tant leurs objets, les délinquants, que les sociologues de la délinquance, n'est pas sans incidence sur les différentes modalités de construction d'objets. Alors, on peut se demander comment les sociologues font face à ce type de situation. Après tout, on a eu l'occasion, il n'y a pas tellement longtemps, de nouveau. Dans un livre récent, Bernard Lahire récuse la confusion entre explication et jugement, entre travail de description et d'interprétation, non normatif, dit-il, et travail de justification ou de dénonciation, normatif. Entre explication scientifique, légitimation politique ou étatique, bref, entre sociologie et droit, et revendique quant à lui l'irresponsabilité politique ou morale du sociologue. La sociologie, je cite, hein, la sociologie n'excuse ni n'accuse. En d'autres termes, le sociologue de la délinquance pourrait, en quelque sorte, se tenir hors procès. Voilà. Ni procureur, ni avocat, il est ailleurs, bon, dans la science. Voilà. Donc, Bernard Lahire réaffirme l'écart entre le savant et le politique. Revendique l'autonomie scientifique par rapport au pouvoir étatique, politique, médiatique, etc. Bon, difficile de lui donner tort. Mais si ce point de vue me semble légitime, on peut néanmoins s'interroger sur le procès qu'intentent les politiques à la sociologie de la délinquance. En substance, ils leur reprochent de déplacer, en quelque sorte, les causes de la délinquance des individus vers l'ordre social et de la sorte de désindividualiser, de politiser les causes de la délinquance. Il est vrai, je crois, que ce faisant, la sociologie remet en cause une fiction juridique, suivant laquelle chacun est à l'origine de ses actes, une fiction idéologique, l'idéologie méritocratique, et une fiction économique, l'homo, celle de l'homo economicus, généralisée d'ailleurs par Gary Becker au choix de la délinquance. Voilà, un article célèbre sur la question. Alors, par rapport à ça, que dire? Il me semble que s'il est vrai que l'intention scientifique implique une forme de déterminisme, c'est-à-dire une forme du principe de raison suffisante, il faut évidemment s'interroger sur le genre de détermination que met en avant la sociologie et sur l'état d'avancement de sa capacité à avancer des déterminations. Perfectible, l'explication sociologique contribue à, en tout cas, à invalider la croyance au libre choix de la délinquance, comme l'évoque Gary Becker, par exemple. Mais la sociologie, le sociologue de la délinquance peut-il se tenir hors procès? Peut-il s'en tenir à la neutralité axiologique, en d'autres termes? La pratique du métier montre, me semble-t-il, qu'elle est, au moins en l'occurrence, tout à fait intenable. De façon générale, le sociologue, qu'il le veuille ou non, est partie prenante des luttes qui ont pour objet le monopole de la représentation légitime du monde social et, en l'occurrence, celle de la délinquance et de ses causes. Le sociologue, par ailleurs, appartient à ce monde social. Il a lui aussi une représentation préalable de son objet. Au mieux, il peut tendre à suspendre son point de vue sur la question, mais le rapport à l'objet initial du sociologue, si contrôlé soit-il, n'est pas, je crois, sans effet sur la pratique de l'enquête. On peut tenter de suivre l'invitation générique de Bourdieu dans La misère du monde à prendre les gens comme ils sont, mais enfin bon, ça n'exclut pas, je crois, pour personne, ni la sympathie et le risque de la conversion à la cause de ceux qu'il étudie, ni l'aversion et le risque de cécité au point de vue de l'enquêté. Je crois qu'il faut m'expliquer comment on fait, quoi. On peut faire ce qu'on peut, mais enfin bon, c'est pas tout à fait évident. D'où, je crois, quand on étudie ce genre de sujet, une espèce de tension inévitable entre l'engagement et la distanciation, pour parler comme Elias. On peut également se demander si la pratique du métier n'influence pas le jugement du sociologue, sinon sur les pratiques, du moins sur les pratiquants. Bon, après tout, c'est ce que font les avocats quand ils plaident des circonstances atténuantes, ils se mettent à faire de la sociologie, en quelque sorte. À cet égard, donc, il est permis de douter que la recherche d'explications sociologiques doive ou puisse rester sans conséquence. Et on peut enfin se demander, j'en reviens directement au sujet, en quoi la situation de procès dans laquelle se trouve pris le sociologue de la délinquance pèse sur sa façon de construire l'objet. En d'autres termes, on peut se demander ce que les deux modalités principales de construction que j'ai expliquées tout à l'heure impliquent par rapport à cette situation de procès. La sociologie du passage à l'acte, la vieille sociologie du passage à l'acte, modèle Vaucresson, qui s'efforce de porter au jour les effets de telle ou telle variable, plaide de facto des circonstances atténuantes, psychosociologiques. Quant à l'autre versant, beaucoup plus à la mode, de la sociologie de la réaction sociale, soutenue par l'humeur anti-institutionnelle post-68-art des légitimations par Foucault, d'une part, elle a deux conséquences de ce point de vue-là. D'une part, elle détourne l'attention du délinquant, sinon pour promouvoir des pratiques délinquantes au rang d'illégalisme populaire, comme on l'a vu à propos de Foucault, mais aussi, par ailleurs, elle la focalise, cette attention, sur les institutions qui la prennent en charge, la police, la justice, le travail social, et instruire, bien souvent, un procès du contrôle social qui écarte la question de la sociogenèse des pratiques délinquantes. Je vous rappelle, par exemple, un célèbre numéro d'Esprit sur le travail social où on voit des choses étonnantes, bon, où c'est un procès qui est instruit, en quelque sorte, par Foucault soi-même, d'ailleurs, avec l'aide de Donzelot et quelques autres, du travail social, qui sont des socioflics, machin, etc. Voilà. Alors, j'en viens... Je sais pas, j'ai encore 5 minutes. Bon, le dernier point sera plus court. Au troisième aspect que je voulais aborder, c'est la question de la délinquance du vénile comme objet de droit, objet psychologique et objet de sociologie. Plus récemment, pour moi, il m'est apparu que la délinquance juvénile pouvait être théoriquement construite comme un territoire qui permette aussi d'observer les luttes de concurrence entre les ressortissants de différents champs. Cette troisième perspective, donc, est issue d'une question assez rudimentaire, en l'occurrence. C'est comment la délinquance juvénile, il faut mettre des guillemets au mot, est-elle devenue une catégorie sui generis au sein de la délinquance? Il s'agit, tout simplement, comme la délinquance, d'un objet préconstruit étatiquement et juridiquement. De même que Durkheim définit le crime par la peine, la délinquance juvénile est définie par l'existence de dispositions juridiques particulières à l'égard des mineurs. C'est la loi du 22 juillet 1912 et l'ordonnance de 1945. la sociogenèse donc de ces dispositions juridiques particulières confronte en fait au problème plus général des exceptions au principe de responsabilité pénale. Et en définitive, à l'analyse, je crois, des relations entre les champs ou fractions de champs mobilisés dans la conduite d'une politique, en l'occurrence la politique pénale. D'où une nouvelle construction d'objet qu'on peut emprunter à Stanislas Morel, qui n'est pas là, mais qui a étudié un problème, je crois, de même forme, qui, en s'inspirant d'Andrew Abbott, définit cette configuration comme un champ d'intervention professionnelle. Alors, c'est quoi ce qu'il appelle un champ d'intervention professionnelle? C'est un espace de coopération ou de concurrence à l'intérieur duquel s'organisent des pratiques professionnelles de différentes catégories de réparateurs qui appartiennent à différents champs, les juges, les médecins, les philanthropes, etc. Voilà. Ces champs d'intervention professionnelle, explique Stanislas, ont quatre propriétés. L'existence d'une demande de réparation, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs de clients, hein, alors en l'occurrence des mineurs délinquants, qui les proposent à l'attention de réparateurs. Deuxième propriété, l'existence de réparateurs qui sont dotés, en l'occurrence, de ressources théoriques et pratiques différentes. C'est par exemple à un pôle le droit et les systèmes carcérales, à l'autre les psychologues et les différents systèmes de santé mentale. Troisième propriété, l'existence de rapports de force entre disciplines, les perspectives du droit, de la psychologie et de la sociologie par rapport à la responsabilité étant tout à fait fondamentale par rapport à ces rapports de force, la définition de ces rapports de force, et l'existence de rapports variables entre concurrence, coopération, délégation entre ces différentes catégories de professionnels. C'est dans le cadre de ce genre de configuration qu'on peut rendre compte, je crois, des concessions qui ont été faites au fil de l'histoire par le droit à d'autres disciplines qu'eux-mêmes, et donc aussi par les juges. C'est le cas bien connu de l'excuse de la folie, hein, qui est concédée en quelque sorte à la psychiatrie avec la loi de 1838 qui institue le placement d'office dans l'asile, à travers le cas Pierre Rivière, etc. Je ne m'y attarde pas puisqu'on y est temps. Donc, qui considère en substance que le trouble psychique des fous introduit une lacune dans la faculté de penser qui est telle qu'elle exclut la responsabilité, donc dont les magistrats se déchargent sur les psys qui se débrouillent avec. Quoi. Bon, voilà. Je crois qu'il en va de même pour l'excuse de minorité qui concerne la délinquance juvénile. Le préambule de l'ordonnance de 1945 évoque un, je cite, « régime d'irresponsabilité pénale du mineur en vertu de, je cite encore, leur absence de discernement ». Les mineurs, il leur manque un truc dans la faculté de penser, ils ont une absence de discernement qui justifie que bon, voilà, les magistrats ordinaires et le traitement ordinaire de la délinquance se retirent et laissent la place à quoi ? Alors, c'est très compliqué, l'ordonnance de 45 en l'occurrence prévoit d'ailleurs, hein, ce que ne faisait pas d'ailleurs dans le cadre de la folie autrefois la loi de 1838, prévoit d'emblée un nouveau dispositif, les juges des enfants, les différents types d'institutions de prise en charge, autres que la prison, pour les mineurs. Donc on a un changement d'étiologie, de la responsabilité du sujet à celle des conditions de vie et d'éducation, un changement de discipline de référence, du droit à la psychosociologie, un changement de traitement de la prison à la psychothérapie, pour faire simple. Voilà, un troisième type de perspectives, d'objets, les rapports entre disciplines concurrentes, voilà qu'on peut mettre au jour à propos de cette question de la délinquance juvénile. Alors, comment conclure ? Il me semble que ces diverses constructions d'objets associées à la question de la délinquance juvénile, qu'il s'agisse de l'action de l'État, de la sociogenèse de trajectoires délinquantes, ou mieux de ce que j'ai appelé l'espace des styles de vie déviants des jeunes des classes populaires, la question des rapports entre le savant et le politique, à travers cette question du procès et de l'excuse sociologique, ou ceux où les rapports entre droit, psychologie et sociologie relèvent toutes de la sociologie générale. Si la construction d'objets implique d'identifier les enjeux théoriques d'un objet empirique, cette démarche, je le rappelle, suppose aussi l'existence d'un cadre théorique, d'une sociologie générale. Comment l'appeler ? La sociologie de Bourdieu, bon, j'ai pas mieux. Hein. En tout cas, il me semble que dans le cas étudié, les constructions d'objets issues de l'objectivation des préconstructions reconduisent toutes à la sociologie générale. Mais en dépit du caractère apparemment circulaire du rapport entre théorie et empirie, il me semble que ce genre de démarche permet d'éprouver la validité de ce cadre théorique et, ce faisant, de le compléter, développer, rectifier. Ainsi va, pourrait-on dire, la science normale. Elle contribue aussi à la circulation ou à la mise en circulation des schèmes d'interprétation. Voilà. Merci.
Merci.